Presse 14, Bruno Duvic.
Bonjour, soyez les bienvenus. Au sommaire aujourd'hui, une journaliste de la télévision symbole du monde arabe, Al Jazeera, tuée en territoire palestinien. Elle couvrait une intervention de l'armée israélienne à Jenin. Pour Al Jazeera, pas de doute, ce sont des tirs israéliens qui lui ont ôté la vie. L'État hébreu accuse des Palestiniens armés. Le baccalauréat 2022, coup d'envoi des épreuves finales dans moins d'une heure. Les épreuves de spécialité, nous irons dans un lycée parisien. Jean-Michel Blanquer restera-t-il ministre de l'Éducation ? Le plus probable est que non, dit-il ce matin. Alors cette fois, est-ce le dernier ? Conseil des ministres de l'équipe Jean Castex aujourd'hui. Est-ce qu'une femme lui succédera ? La seule à avoir occupé ce poste jusque-là fut Edith Cresson. Ce sera le vif de l'histoire avant 14h. Le gouvernement prépare des mesures pour le pouvoir d'achat pour le début de l'été. Parmi les mauvaises nouvelles attendues de ce côté, la hausse probable de la taxe sur les ordures ménagères dans beaucoup de collectivités locales. L'installation de la fibre optique se poursuit à un rythme soutenu en France, mais pour 15 à 20% des abonnés, il y a des coupures, petites ou grosses. À 13h20, notre invitée est la présidente de l'Autorité de régulation des communications électroniques lors de la Raudière. Vos questions, 01 45 24 7000 et l'appli France Inter, rubrique Réagir. 32 degrés à Cahors, 31 à Auxerre, 29 à Vichy. Nouvelle journée de chaleur en France. La météo de Sébastien Léas tout à l'heure. Avant cela, les sorties cinéma de la semaine. Et puis à 13h45, dans C'est une chanson, le pianiste Koki Nakano choisit un morceau de chant lyrique, un lead de Schumann. Le 13-14, vous avez le programme, c'est parti.
France Inter. Le 13-14.
Les tensions étaient déjà vives depuis un mois et demi entre Israéliens et Palestiniens. Ce qui s'est passé ce matin dans le nord de la Cisjordanie alourdit encore ce climat. Une des journalistes stars d'Al Jazeera, la télévision phare du monde arabe, a été tuée en plein reportage à Jenin, en Cisjordanie. Shirin Abu Akleh, nationalité américano-palestinienne, couvrait une opération de l'armée israélienne dans un camp palestinien. Bonjour Alice Froussard.
Bonjour Bruno, bonjour à tous.
Alice, vous êtes en direct avec nous. Que sait-on des circonstances de sa mort ?
Eh bien, deux versions s'opposent ici. D'un côté, il y a la version israélienne. L'armée ne mentionne qu'un seul scénario, précise, je cite, qu'elle étudie la possibilité que les journalistes ont été touchés par des tirs palestiniens. Le Premier ministre Naftali Bennett confirme que selon les informations réunies, Shirin Abu Akleh n'a probablement pas été tuée par des tirs israéliens, mais par, dit-il, des Palestiniens armés qui ont tiré sans discernement. Une version que réfutent en bloc les collègues de la journaliste d'Al Jazeera qui était présent sur place à Jenin avec elle. Alice Amoudi, un de ses confrères, a été blessé d'une balle réelle. Lui aussi précise qu'ils se sont identifiés en groupe. Sept journalistes devant les soldats israéliens portaient tous un casque et un gilet pare-balles avec une inscription presse qu'il n'y avait pas d'affrontement mais qu'ils ont reçu une salve de tir en leur direction. Lui d'abord dans le dos, puis Shirin Abu Akleh à la tête. Le dernier mail qu'elle a envoyé à Al Jazeera date de 6h13, heure locale. À 7h, elle n'a jamais répondu pour son direct. La chaîne a appris qu'elle était décédée quelques minutes après. Dans un communiqué, Al Jazeera parle d'un meurtre en violation du droit international et affirme que les forces d'occupation israéliennes ont assassiné de sang-froid leurs journalistes.
Alice, on vous retrouve dans un instant. On entend ici la voix de Shirin Abu Akleh lors de son dernier reportage à Jenin. Frédéric Mettezo a interrogé pour sa part le chef du bureau d'Al Jazeera à Gaza. Il s'appelle Wael Al-Dardou.
Shirin est vraiment une super journaliste, très célèbre aussi. C'est une personne incroyable et ce qui s'est passé est un très très grand choc. On ne s'était rencontré qu'une seule fois quand elle était venue à Gaza, mais on s'est vu des centaines, des milliers de fois à travers l'écran pendant nos directs. On avait l'habitude de couvrir l'actualité main dans la main, on s'échangeait des infos à propos de la situation en Palestine, on se connaissait vraiment bien et notre relation est formidable. Des témoins confirment que c'est l'armée, sans aucun doute. Ils portaient des gilets pare-balles et des casques siglés presse, télé, montrant qu'ils étaient journalistes. Tout le prouve, il n'y a aucune place pour le doute. La balle est arrivée sous son casque et au-dessus du gilet, là où le cou est à nu. C'est bien qu'elle a été visée et assassinée. C'est évident, les déclarations de l'armée israélienne sont confuses. Elles veulent détourner l'attention.
Voilà pour ces propos recueillis par Frédéric Mettezo. Alice Froussard, vous êtes toujours en direct avec nous. Cette journaliste avait vraiment et était vraiment une personnalité reconnue.
Oui, c'était une journaliste extrêmement connue, à la fois pour les Palestiniens, mais aussi dans tout le monde arabe. Elle rapportait inlassablement la moindre information de Jérusalem à Gaza, comme on l'a entendu, en passant par la Cisjordanie occupée. Alors, les hommages pleuvent depuis ce matin. Ses collègues parlent d'elle comme de leur mentor. De nombreux jeunes Palestiniens comme de leur idole. Beaucoup ont grandi avec elle, racontant les intifadas, slalomant entre les raids de l'armée israélienne aux quatre coins du territoire. J'avais collé sa photo dans mon album de l'intifada il y a 20 ans. Exactement, j'avais 7 ans, précise Jalal Abou Khater, un jeune Palestinien. Elle n'aimait pas le risque, elle se déplaçait calmement. C'est pour cela que j'ai du mal à croire qu'elle ait mis sa vie en danger ce matin, raconte un de ses confrères.
Le gouvernement palestinien demande une enquête internationale, enquête approfondie, c'est l'appel des États-Unis. Rappelons que Shirin Abou Akleh était américano-palestinienne. Le gouvernement israélien propose lui une enquête conjointe. Rappelons que les événements ce matin arrivent un an presque exactement après le bombardement israélien de la tour qui abritait les bureaux d'Al Jazeera à Gaza. Cette fois, le nouveau baccalauréat version Jean-Michel Blanquer voit vraiment le jour. Ces deux dernières années, à cause du Covid, la plupart des épreuves écrites avaient été annulées. Retour à la normale ou presque cette année, les épreuves de spécialité se tiennent à partir d'aujourd'hui et jusqu'à vendredi pour les élèves des filières générales et technologiques. Presque comme prévu donc, puisque théoriquement, elles auraient dû se tenir en mars. La situation sanitaire a amené à les déclarer à ce mois de mai, mais pas de jour. Ni de masque pour les élèves aujourd'hui. Deux spécialités obligatoires pour chacun, 523 000 élèves. Et grâce à Sonia Princey, nous suivons cette première journée qui nous dit aussi que la crise sanitaire est en partie derrière nous. Pour l'instant, au moins, nous la suivons au lycée Claude Bernard à Paris. Bonjour Sonia.
Bonjour.
Distribution des sujets dans moins d'une heure, c'est bien cela ?
Oui, le compte à rebours a commencé. Les candidats sont en train d'arriver devant le lycée. Ils pourront rentrer à partir de 13h30 et seront répartis sur un étage. La proviseure Martine Firigrand a fait les ultimes vérifications.
Tout est prêt, les salles sont installées, les enseignants sont déjà là. Nous leur avons communiqué ce matin toutes les informations liées aux consignes de passation des épreuves. Nous avons deux séries, la série générale avec 175 candidats et la série technologique avec 48 candidats. Nous les avons répartis sur 7 salles différentes pour deux aspects, pour qu'ils soient eux dans de bonnes conditions, avec la météo qui est très très estivale, donc pour qu'il n'ait pas trop chaud, mais également en fonction des épreuves qu'ils passeront et donc des sujets qui seront distribués.
Car les candidats auront davantage de sujets au choix. On tient compte de cette année qui a encore été particulière, marquée par de nombreux cas de Covid et de nombreuses absences. Aujourd'hui, aucune absence annoncée pour le moment. Les élèves qui seraient malades devraient repasser ces épreuves en septembre. Et pour ceux qui ne se sentiraient pas bien sous l'effet du stress pendant l'examen, l'infirmière scolaire qui ne travaille pas habituellement le mercredi sera là pour les rassurer. Cette première épreuve doit durer entre 3h30 et 4h selon les spécialités. C'est pour les mathématiques et les sciences économiques et sociales qu'il y a le plus de candidats. Demain, même heure, la deuxième spécialité. Alors, il risque de faire un peu chaud dans les salles l'après-midi, mais l'avantage, c'est que ce matin, les élèves ont pu faire une petite grasse matinée et ils seront peut-être un peu plus détendus.
L'infirmière scolaire et la grasse matinée, tout va bien. Merci Sonia Princey, en direct du lycée Claude Bernard avec Stéphane Beaufils. Et Jean-Michel Blanquer sera-t-il encore ministre de l'Éducation dans les semaines à venir ? Le plus probable, c'est que non, a-t-il dit ce matin. Car le conseil des ministres d'aujourd'hui à l'Élysée est en principe le dernier de l'ère Jean Castex. On prend quelques précautions dans la mesure où la gestion des affaires courantes après la présidentielle dure plus longtemps que ce que beaucoup anticipaient. Mais enfin, le chef du gouvernement réunit ses troupes demain soir à Matignon pour ce qui ressemble à un dîner d'adieu. Et donc ce matin, le groupe réuni à l'Élysée. Bonjour Simon Le Baron.
Bonjour.
Quelle ambiance à l'Élysée ?
Alors, pas d'ambiance de sortie des classes, en tout cas, aujourd'hui, pour l'instant. Rien que de très banal, Bruno, l'habituel balai des voitures de fonction sur le gravier de la cour d'honneur. Il faut dire que c'est la troisième fois que les ministres viennent ici pour ce qu'ils pensent être leur dernier conseil. Mais cette fois-ci, il y a de fortes chances que ce soit la bonne. Le dernier quinquennat, le premier quinquennat, se termine officiellement vendredi. C'est donc bien le dernier conseil des ministres du premier mandat Macron. Ensuite, comme d'habitude, c'est le président qui va décider. Mais cela devrait aller plutôt vite, puisqu'il assure déjà connaître le nom de son futur Premier ministre.
Bon, s'il y a encore un conseil, ça ressemblera à la tournée d'adieu des frères Jacques. Alors, cela dit, on gère les affaires courantes au gouvernement, mais pas seulement, on profite aussi de ce conseil des ministres pour lancer l'offensive sur le pouvoir d'achat.
Et c'est l'un des quatre points à l'ordre du jour de ce court conseil, une communication du ministre de l'économie Bruno Le Maire consacrée à la protection du pouvoir d'achat des Français. Alors cela vous paraît sans doute très formel, mais c'est en fait très politique, décryptage d'un conseiller. Il y aura sans doute une ou deux annonces, certes, mais c'est avant tout de l'affichage pour montrer que l'on travaille. Emmanuel Macron a fixé le mot d'ordre, ne surtout pas laisser les oppositions s'emparer, comme Marine Le Pen, par exemple, pendant la campagne présidentielle, de la préoccupation numéro un des Français. Les premières mesures promises par le président pour le début de l'été pourraient donc être présentées en Conseil des ministres avant même les législatives, ce qui serait inédit. Triplement de la prime en entreprise, indexation des retraites sur l'inflation, revalorisation des minima sociaux, chèques alimentaires. Bercy avance sur la rédaction de toutes ces mesures. Emmanuel Macron veut aller vite pour en faire des armes politiques entre les mains de ses candidats dans une campagne, il l'a dit hier à ses troupes, dont il juge qu'elle sera la plus difficile.
Simon Le Baron en direct de l'Élysée avec Martin Troadec. Les conséquences de la hausse des prix pour une partie des Français, on les mesure avec ce témoignage. Au micro d'Hugo Charpentier, dans les locaux du Secours Populaire de Colomiers, près de Toulouse. C'est une dame qui s'appelle Siem, elle a 39 ans, 3 enfants, elle est fonctionnaire et pour la première fois de sa vie, elle a besoin d'aide.
Moi, je gagne 1500 euros par mois.
Et vous allez au Secours Populaire ?
Ouais, ouais. C'est déstabilisant, vraiment. On n'a jamais manqué de quoi que ce soit. Et là, c'est vrai que ça devient difficile. Nos salaires restent inchangés alors qu'on a un coût de la vie qui augmente tous les jours. Et puis encore plus ces derniers temps, compte tenu de l'actualité, la récente. Ben là, je paye 6 euros, je vais avoir un peu de légumes, du lait, des couches pour la semaine.
Et les vêtements aussi, 50 centimes, un vêtement d'enfant ?
Un vêtement de bébé, ouais, 50 centimes et 1 euro pour les vêtements d'adultes. Je suis dépitée. On vit dans un pays qui est à 5e puissance mondiale. J'ai une voiture, j'ai une maison avec un jardin, un garage et je pensais pas en arriver là comme ça. C'est horrible.
L'inflation est autour de 5% sur un an, confirme le gouverneur de la Banque de France sur France Inter ce matin. François Villeroy de Gallo estime que cette inflation devrait commencer à baisser au début de l'an prochain. D'ici là, pour la contenir, il y a un instrument bien connu, remonter les taux d'intérêt qui sont très bas à l'heure actuelle. Alors est-ce qu'ils vont remonter ?
Les taux d'intérêt vont monter, mais très progressivement. Mais la Banque Centrale Européenne, la Banque de France, feront ce qu'il faut, ça je veux le dire avec beaucoup de force, pour ramener l'inflation autour de 2% dans les deux ans qui viennent. Nous avons le devoir d'agir, parce que c'est notre mission, et puis nous en avons la capacité. Hein. Et disons qu'à partir de l'été, je pense que la Banque Centrale Européenne relèvera progressivement ses taux d'intérêt.
François Villeroy de Gallo ce matin avec Léa Salamé, et ce matin la gouverneure de la Banque Centrale Européenne, Christine Lagarde, confirme qu'en effet ces taux pourraient être relevés à partir de juillet. À propos de pouvoir d'achat, une taxe pourrait augmenter cette année, taxe sur les ordures ménagères. Elle est facturée par les collectivités locales, aux propriétaires de maisons ou d'appartements, qui la répercutent sur les locataires. Et Agnès Soubiran, la plupart des collectivités envisagent d'augmenter la note. Traiter les déchets revient de plus en plus cher.
Le carburant pour les camions, l'électricité pour faire fonctionner les robots des centres de tri, l'investissement dans de nouveaux engins de ramassage, le salaire des employés municipaux, la colonne dépenses s'allonge avec un volume de déchets toujours plus important et de nouvelles obligations en matière de recyclage. Et la particularité de cette taxe est qu'elle ne peut être financée que par elle-même. Impossible, par exemple, d'aller puiser dans un autre budget qui serait excédentaire. Seule solution donc pour les communes, augmenter cette taxe payée par les propriétaires, qui la répercute même sur leurs locataires. Après 15 ans de stabilité, c'est ce que s'apprête à faire la communauté d'agglomération de Castres-Mazamet, plus 16% cette année et sans doute encore une augmentation en 2023. Pas le choix, estiment les élus, quand le montant versé par l'agglo au syndicat mixte chargé du traitement des déchets est passé de moins de 4 millions d'euros il y a deux ans à plus de 5 millions cette année. Alors pour inciter les entreprises à réduire le volume de leurs déchets, un quota a été fixé au-delà duquel ces entreprises devront faire appel à des sociétés privées pour se débarrasser de leurs ordures. Et l'agglomération lance une campagne de sensibilisation avec un slogan tout simple : le déchet le moins cher à traiter est celui que l'on ne produit pas.
Le pouvoir d'achat, encore sujet majeur à l'approche des législatives. Eux étaient les grands adversaires d'Emmanuel Macron entre le 10 et le 24 avril, entre les deux tours de la présidentielle. Mais depuis, les responsables du Front National se sont fait discrets, à tel point que c'est Jean-Luc Mélenchon qui fait figure d'opposant numéro 1 depuis 3 semaines. C'est à lui qu'Emmanuel Macron s'en est pris hier soir dans son discours devant les candidats investis par La République En Marche pour les législatives. Mais la relative disette médiatique du Rassemblement National s'achève. Marine Le Pen était l'invitée du 20h de TF1 hier soir. Et ce matin, Élodie Forêt, le président du RN, Jordan Bardella, tenait une conférence de presse.
Oui, un Jordan Bardella a priori très inspiré, Bruno, par la fable de La Fontaine, le lièvre et la tortue et sa célèbre morale. Rien ne sert de courir, il faut partir à point.
Ce n'est pas nous qui sommes partis très tard, c'est Jean-Luc Mélenchon qui est peut-être un peu parti très tôt. On n'est même pas encore à J-30 aujourd'hui du premier tour. Donc permettez-moi de vous rappeler au bon souvenir des dynamiques et des courbes de l'élection présidentielle où on voit que nos électeurs rentrent dans la campagne généralement 2-3 semaines avant l'élection. Donc on est extrêmement serein, on va faire campagne de manière intensive dans les prochaines semaines.
Une campagne intensive donc promet le patron par intérim du RN avec une tournée de Marine Le Pen pour aller soutenir quelques-uns des 569 candidats investis et pour mobiliser les électeurs de levier comme lors de la présidentielle, le référendum anti-Macron, mais aussi, et ça c'est plus nouveau, l'anti-mélenchonisme.
Derrière Jean-Luc Mélenchon se constitue une véritable ZAD, regroupant les idéologies les plus dangereuses pour la France. Un bloc de 50 nuances de rouge qui n'a plus aucun complexe, à pactiser avec l'islam politique et l'indigénisme, qui préfère Assa Traoré à Mila, qui ne défend plus enfin la liberté des femmes mais considère le burkini comme un progrès social.
Jordan Bardella qui ce matin s'est de nouveau engagé au désistement des candidats RN en cas de triangulaire où un patriote, je cite, serait mieux placé, y compris Éric Zemmour, lui demande-t-on. Jordan Bardella esquive. S'il hésite, c'est qu'il sait qu'il va au carton.
Et si dans le cadre de cette campagne, on regarde l'inflation en France, c'est le cas aussi chez nos voisins. Cette inflation est forte et même plus forte que chez nous, près de 8% sur un an en avril en Allemagne. En Ukraine, les enquêtes sur les crimes de guerre se poursuivent. La Cour pénale internationale est aidé par des enquêteurs de nombreux pays, coopération internationale hors normes. Y participe Eurojust, l'agence judiciaire européenne. Et la France a notamment dépêché la première 2 médecins légistes et une quinzaine de gendarmes pour recueillir des preuves et des témoignages et les transmettre à la CPI. Claude Guibal.
Après le massacre de Boutcha, 43 pays dont la France ont saisi directement la Cour pénale internationale, impulsant une gigantesque opération de coopération judiciaire. François Alabrune est directeur des affaires juridiques au Quai d'Orsay.
Cela a permis de démarrer immédiatement l'enquête. Le lendemain de notre saisine, ça permet de recueillir de façon très rapide les preuves avant qu'elles ne disparaissent.
Mais l'effort est également financier. La France a rajouté 500 000 euros aux 13 millions qu'elle donne déjà à la CPI pour répondre à l'appel à contribution demandé par l'institution, explique Louis Vassy, ambassadeur de France aux Pays-Bas.
Une partie de ces fonds doit aller à la modernisation d'outils de gestion des données pour à la fois faire remonter les témoignages, les analyser et puis les conserver. Ensuite, vous aurez en effet des questions d'analyse d'images sur lesquelles l'utilisation de l'intelligence artificielle peut être utile. Vu l'étendue des crimes qui sont commis, le nombre de témoignages à recueillir va être un élément important.
Essentiel pour lancer des procédures sans faille, car la CPI ne juge pas des États mais des personnes. Son objectif n'est pas juste de prouver que des crimes de guerre ont été commis, mais bien d'établir des chaînes de responsabilité individuelle.
Savoir que vous pourrez un jour rendre des comptes doit avoir un effet dissuasif sur celui qui commet ces crimes ou les ordonne.
La certitude qu'il n'y aura pas d'impunité, un outil majeur pour tenter de freiner les guerres.
Depuis le début de la guerre, quelques 5,5 millions d'Ukrainiens ont quitté leur pays. Pour la petite minorité accueillie en France, elle est arrivée alors que c'était l'hiver chez eux. Et ici, les températures ont bien évolué depuis et les vêtements chauds que les femmes et enfants en particulier portaient à l'époque ne sont plus adaptés. Alors la mairie de Lille a lancé fin avril un appel aux dons pour des vêtements d'été. Succès éclair, comme l'explique Sébastien Duhem, qui coordonne l'accueil des 850 réfugiés ukrainiens sur le territoire lillois.
C'est vrai qu'en une seule journée, on a eu quand même une masse importante, des centaines et des centaines de kilos de vêtements pour femmes, enfants et quelques hommes, hein, puisque nous avons moins d'hommes. Et les deux jours qui ont suivi, nous avons mobilisé également les équipes pour permettre à ces personnes de venir chercher les vêtements le vendredi et le samedi matin. Donc aujourd'hui, il nous reste un certain nombre de vêtements, hein, nous avons un surplus important. Nous allons le redispatcher en direction des associations avec lesquelles nous travaillons. Et s'il y a des besoins complémentaires de la part des familles que nous accueillons, nous les mettons en lien avec les associations qui travaillent avec nous.
Propos recueillis par Sophie Constanzer. Voici une autre conséquence de cette guerre en Ukraine. Les investisseurs se méfient davantage des placements à risque. C'est une explication de la chute vertigineuse de la valeur des monnaies virtuelles, les crypto-monnaies, le bitcoin en premier lieu. Hier, il avait perdu 57% de sa valeur par rapport à son plus haut historique en novembre 2021. Et globalement, Laurent Kramer, le marché des crypto-monnaies a fondu.
Oui, et ce sont donc 800 milliards de dollars de valorisation ou d'investissement volatilisés pour le bitcoin depuis le début de l'année. Des investisseurs institutionnels, des grands fonds de pension qui retirent massivement leurs billes du bitcoin depuis le mois de février. Le contexte international a changé. Inflation, tension sur les marchés. Les banques centrales sifflent la fin de la récré et les marchés réagissent. car le cours du Bitcoin, tout comme celui des entreprises de la tech, est porté par l'afflux massif de liquidités de l'argent bon marché déversé par les banques centrales. En relevant les taux d'intérêt aux États-Unis et bientôt en Europe, les investisseurs ont compris qu'il fallait sortir de tout ce qui était objectivement survalorisé, artificiellement porté par cet afflux de liquidités. PayPal, Facebook, Netflix ont ainsi perdu plus de 50% de leur valeur, parfois plus depuis février, tout comme le Bitcoin. En réalité, arrimé dans l'esprit des investisseurs sur ces valeurs de la tech, les investisseurs ont donc vendu au plus haut pour récupérer de l'argent frais. Le cours du Bitcoin a décroché, perdant la moitié de sa valeur. Les investisseurs institutionnels désertent aujourd'hui clairement tout ce qui touche de près à la tech pour des investissements considérés comme moins risqués.
Quant au CAC 40 à la Bourse de Paris, après quelques jours de baisse, il remonte depuis hier plus 1,9% à l'instant. Le GAL, la GAL, groupe antifasciste Lyon et environ, mouvement d'extrême gauche. Ce mouvement avait été dissous sur ordre du gouvernement fin mars, accusé d'actions violentes contre ses adversaires politiques d'ultra-droite, mais aussi contre les forces de l'ordre. Les militants contestent cette dissolution. Emmanuel Leclerc, le dossier était examiné ce matin devant le Conseil d'État.
Oui, et pendant 2 heures ce matin, 3 magistrats du Conseil d'État ont entendu les arguments des deux parties. Tout d'abord ceux du ministère de l'Intérieur et de sa directrice des affaires juridiques, Pascale Léglise, issue d'un rapport de 30 pages sur ces manifestations depuis 2013 où la GAL porterait la responsabilité de violences, en particulier contre les forces de l'ordre. Ce jour d'avril 2021 également, où les policiers lyonnais ont déjoué une expédition punitive contre des militants d'extrême droite. Des couteaux, des marteaux avaient été découverts dans un sac. Enfin, ces innombrables provocation à la haine anti-flic recensée par le ministère de l'Intérieur, en particulier sur les comptes Facebook, Twitter de l'organisation, tout cela sans aucune modération des commentaires. Les avocats de la GAL, à l'image de Maître Antoine Lioncamp, ont pu longuement, factuellement contester chaque grief reproché par le ministère de l'Intérieur à l'organisation d'extrême gauche et à ses militants.
Ce que j'ai retenu, c'est cette sorte d'approximation, alors que dans les atteintes aux libertés publiques, on doit justifier vraiment de manière très précise les raisons pour lesquelles on fait reculer la liberté d'expression, la liberté de réunion. Et là, j'ai pas trouvé que ces justifications étaient là. À dire vrai, j'ai surtout senti un discours qui était vraiment très, très laxiste, au sens propre, c'est-à-dire sans rigueur.
La décision du Conseil d'État pour savoir s'il suspend ou non la dissolution de la GAL sera rendue d'ici la fin de la semaine.
Emmanuel Leclerc, quel est l'impact des perfluorés, ces produits utilisés par l'industrie chimique pour une série de caractéristiques anti-adhésifs, finifuges, anti-graisses, mais durablement nocifs pour la santé et l'environnement? L'impact des perfluorés, l'association Génération Future et l'émission de France 5 Vert de Rage alertent dessus avec des relevés réalisés dans la ville de Pierre-Bénite où se trouvent deux usines chimiques, et la ministre de la Transition écologique lance plus largement une enquête sur ces perfluorés, Célia Kiré.
Oui, Barbara Pompili veut vérifier le contenu de ces rejets toxiques près de l'entreprise Arkema. Décision prise après le travail d'enquête de Martin Boudot pour l'émission Vert de Rage. Des contrôles supplémentaires ont été effectués près de la zone industrielle de Pierre-Bénite. La ministre se prononce sans attendre pour l'interdiction de tous ces polluants dits éternels, car aujourd'hui seuls deux composants, les PFOA et PFOS, ne sont plus autorisés. L'industrie les utilise pour leurs propriétés anti-adhésives, anti-graisses. Il y en a dans les emballages, par exemple. Et cette enquête montre des taux de perfluorés au-dessus des normes dans les eaux de rejet des usines et dans l'eau potable, notamment. L'ONG Génération Future alerte depuis plusieurs années sur les effets de ces molécules. Pour Pauline Servant, toxicologue, les relevés effectués à Pierre-Bénite sont en effet alarmants.
Ce qui est inquiétant, c'est des substances extrêmement toxiques qui agissent à très faible dose. Les premiers effets, donc, ce sont les effets sur le système immunitaire, mais il y a aussi des effets perturbateurs endocriniens pour certains qui arrivent à très faible dose. Et les relevés qu'on retrouvait dans l'eau potable pourraient conduire à une exposition inacceptable pour les populations.
Et pourtant, Arkema a arrêté les PFOA, une catégorie de ces polluants éternels, dès 1980. Génération Future demande un inventaire national de tous les sites industriels, davantage de contrôle de la qualité de l'eau près des usines, et elle milite pour une interdiction européenne de ces substances. Il devrait en être question lors d'une conférence informelle de ministres européens aujourd'hui à Paris. En tout cas, ces substances sont dans le collimateur de la Commission européenne. Elle s'est engagée à interdire un certain nombre de produits toxiques d'ici 2030.
Il est des objets qui marquent leur époque puis disparaissent. Apple cesse la production de l'iPod, le baladeur numérique qui avait succédé au Walkman puis au disque man que des mots anglais, ce qui raconte quelque chose selon des spécialistes. Il s'est vendu 450 millions d'iPod depuis 2001. Nous en venons au cinéma, de la musique, du rire et du sang au programme de notre chronique ciné du mercredi. Bonjour Alexis de Meyer.
Bonjour Bruno.
Alexis, vous nous conseillez cette semaine Ima, The Duke et The Northman. Direction l'Irlande donc pour commencer?
Oui, au temps des Vikings.
Islande, hein, pas Irlande, j'ai dit une bêtise.
C'est l'Islande, en effet. The Northman, l'histoire de vengeance que nous propose l'américain Robert Edgers, cinéaste de 38 ans, spécialisé dans les films de genre. Il convoque ici un casting hollywoodien avec Nicole Kidman, Ethan Hawke et même Björk. Quand il était enfant, le prince Hamlet a vu son père se faire tuer sous ses yeux. Alors, 20 ans plus tard, il revient dans son royaume, déterminé à tuer son horrible oncle qui s'est emparé du trône. Pendant 2h15, le sang va couler à flot et la lave aussi, puisque les volcans islandais sont en éruption. Ce film médiéval, sombre et violent n'est en fait pas très éloigné dans son sujet et dans sa forme du dernier Batman, âme sensible s'abstenir.
The Northman donc, allez mettons le cap plus au sud maintenant, Newcastle, Angleterre.
Avec la comédie sociale The Duke dans la lignée de The Full Monty et des films de Stephen Frears.
Not very good, is it?
Dans les années 60, un chauffeur de taxi sexagénaire parvient à voler un tableau de Goya à la National Gallery de Londres, non pas dans le but de s'enrichir, mais de réclamer une rançon au gouvernement afin de faire baisser les impôts des retraités. Ça peut paraître abracadabrantesque et pourtant c'est une histoire vraie. Le réalisateur Roger Mitchell, disparu peu de temps après la fin du film, a trouvé le ton juste pour ce divertissement très politique. Mention spéciale à la scène de procès lors de laquelle cet inoffensif Robin des Bois moderne parvient grâce à ses punchlines à s'attirer la sympathie de toute l'assistance.
Nous sommes partis d'Islande, nous sommes passés par l'Angleterre, nous allons maintenant à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo.
C'est l'un des chanteurs préférés des ados que nous écoutons, Dadju, le petit frère de Gims, qui multiplie lui aussi les disques de platine ces dernières années. Dans Ima, signé Nils Tavernier, Dadju interprète son propre rôle, celui d'un artiste qui revient au Congo, pays d'origine de sa famille, pour un grand concert en plein air. Un soir, il rencontre une étudiante, Ima, jouée par Karidja Touré, et c'est le coup de foudre. Même si les dialogues sont parfois un peu cucu, ce film très musical possède beaucoup de qualités, et notamment celle de filmer Kinshasa et ses environs avec justesse, et Dadju qui sort vendredi son troisième album prouve ici qu'il peut aussi prétendre à une carrière de comédien chapeau l'artiste.
Ima donc après The Duke et The Northman, voilà les trois conseils d'Alexis de Meyer pour le cinéma cette semaine. La fin du championnat de France de football approche, deux matchs ce soir, 21h Nantes-Rennes. Rennes doit encore conforter sa qualification en Coupe d'Europe, 19h Nice-Saint-Etienne. Nice peut aussi être européen la saison prochaine, les Azuréens sont 6e pour l'instant et Saint-Étienne 18e et pour l'instant barragiste. Dans un instant, la météo.
Suivez le fil infernal du nouveau roman de Franck Tillier. Une enquête en forme de labyrinthe. Un seul témoin amnésique. Trouverez-vous l'issue? Découvrez Labyrinthe de Franck Tillier chez Fleuve Édition. Fleuve Édition, à chaque page son univers. France Inter aime
Parlement, une série à retrouver sur France.tv.
Tu as deux types de députés, les psychopathes et les imbéciles.
Une comédie politique détonnante. Samy, un jeune assistant parlementaire à la découverte des arcanes des institutions européennes, doit jongler entre ses valeurs, son travail et ses amours.
J'annonce quoi demain à la matinale ?
The Blue Deal.
Parlement, une série France TV slash, à suivre sur France.tv et France 5.
Ça fait du bien de reformer l'orchestre.
Un partenariat France Inter.
Le temps de ce jour.
La météo, avec Air France. Cet été, envolez-vous en toute sérénité vers plus de 1000 destinations. S'envoler en toute élégance. Air France. Rendez-vous sur airfrance.fr.
Bonjour Sébastien Léas.
Bonjour Bruno, bonjour à tous.
C'est plein soleil ou presque cet après-midi.
Oui, vous connaissez cette fameuse phrase, toute la Gaule est occupée par le soleil, toute non, une région peuplée d'irréductibles bretons résiste encore et encore. La Bretagne est concernée par une perturbation, alors le corps de cette perturbation arrose surtout l'Angleterre. Les nuages de cette perturbation vont quand même déborder vers les pays de la Loire et le Calvados cet après-midi, et puis quelques petites gouttes pourront se faire ressentir entre le Finistère et le Cotentin. Partout ailleurs, l'après-midi sera outrageusement ensoleillé. Prévoyez quand même quelques grisailles rebelles sur les côtes aquitaines ou encore le Narbonnais, ainsi que des nuages instables sur le Mercantour, la montagne Corse et l'ouest des Pyrénées qui pourront donner quelques averses cet après-midi. Des nuages pourront aussi fleurir entre la Normandie et les Hauts-de-France, mais les éclaircies resteront quand même largement prédominantes. Et puis il va faire chaud, je vous apprends rien, on parle de chaleur quand les températures dépassent 25 degrés cet après-midi. On pourra même parler de forte chaleur entre le sud-ouest et un large quart nord-est avec des pointes à plus de 30 degrés. 30 degrés attendus par exemple à Strasbourg, à Grenoble, à Mont-de-Marsan ou encore à Saint-Girons. 31 pour Brive-la-Gaillarde et Auxerre et même 32 degrés à Cahors. Il fera aussi 29 degrés à Dijon et Nancy, 26 degrés pour Paris, 25 degrés à Marseille, 24 degrés à Lille, Perpignan et Bastia. Les températures sont quand même plus modérées en allant vers le nord-ouest et les plages prises par la grisaille. 22 degrés à Caen, 21 degrés à Nantes, 20 degrés pour Biarritz et 17 degrés à la Pointe du Raz.
17 degrés, donc il y a 15 degrés d'écart entre la Pointe du Raz et Cahors. Merci Sébastien.
Très joli coin la Pointe du Raz.
Il est 13h30.
Le 13-14. Bruno Duvic.
Oui, l'installation de la fibre optique progresse en France et assez vite. Près de 15 millions d'abonnés à la fin de l'année dernière. 4 millions de plus en un an, mais il y a des ratés, beaucoup de ratés, connexions défaillantes, voire absentes pour 15 à 20% des abonnés. Comment expliquer cela? Autre question, y a-t-il toujours un fossé, ville-campagne, pour les connexions mobiles, la 4G? C'est ce que dénonçait encore en début d'année l'association UFC Que Choisir. Où en est-on? 01 45 24 7000, l'appli France Inter pour vos questions. Notre invité jusqu'à 13h45 est présidente de l'ARCEP. Bonjour, Laure de la Rodière.
Bonjour.
ARCEP, de quoi s'agit-il?
C'est l'autorité indépendante, donc une autorité de l'État, qui est chargée d'édicter des règles afin de concilier des intérêts privés, ceux des opérateurs des télécommunications dans le secteur des télécommunications, avec des objectifs d'intérêt général. En l'occurrence, par exemple, apporter une connexion à Internet à très haut débit partout sur les territoires, de qualité et à prix abordable. Ou encore de s'assurer de la prise en compte des enjeux environnementaux par la filière.
Voilà, autorité de régulation des communications électroniques. Les présentations sont faites. Continuons avec le cadre finalement. Au fond, ce réseau fibre, à qui appartient-il ce réseau fibre?
Le réseau fibre sur le principaux territoires en France en nombre de connexions appartient aux opérateurs privés. Et dans certains cas, il appartient aussi à des collectivités et l'exploitation est faite dans ce cas-là en délégation de services publics à des opérateurs. Mais la question de la propriété n'est pas la question centrale pour assurer la qualité d'un réseau. Aujourd'hui, on a des zones différentes entre les très grandes villes et la campagne, mais on peut dire que partout, le réseau se déploie vite, vous l'avez dit en introduction, mais malheureusement, dans certains territoires, et plus spécifiquement sur certains réseaux, nous faisons face à des soucis de qualité de l'exploitation et de qualité aussi des raccordements. C'est un sujet de préoccupation de l'ARCEP, bien
alors,
évidemment.
C'est ça qu'on va essayer d'expliquer en prenant d'abord Nicolas au téléphone. Je précise que vous êtes technicien, Nicolas. Bonjour.
Oui, bonjour.
Vous vouliez parler de la sous-traitance.
Oui, voilà. En fait, moi, donc, je suis technicien. Donc, pour un des quatre opérateurs. Alors, effectivement, on a un souci avec la sous-traitance, je pense, qui est pas toujours bien formée. Je vais pas taper directement sur la sous-traitance un peu facilement. C'est pas le propos, mais la sous-traitance prend beaucoup de grilles, qui la redonne à d'autres sous-traitants, qui la redonne à d'autres, et en bout de chaîne, des fois, on a des mecs qui viennent en tongs et qui ne savent pas vraiment comment ça fonctionne, qui font des installations en dépit du bon sens, qui sont pas outillés. Et aussi, le problème, il est qu'ils sont payés à partir du moment où la box, ce qu'on appelle la box helping, c'est-à-dire que quand la box est connectée, pour eux, l'installation est validée. Et ça, ben, ça passe des fois par débrancher tel opérateur pour mettre son client, quoi. Ouais. Et moi, mon job, c'était ça, c'était justement de passer derrière, parce que du coup, ben, la personne vient, branche son client, donc du coup, il en a débranché un autre, l'autre sous-traitant vient pour le client débrancher, redébranche le nôtre. Ouais. C'est un bordel sans fin. Moi, je me suis déjà vu, réparer mon client et trouver une solution pour un autre client qui n'est pas de mon opérateur, quoi.
Merci Nicolas pour ce témoignage. Laure de la Rodière, c'est une explication qu'on voit souvent avancer pour les ratés dans les connexions de fibre optique, trop de sous-traitance, qui fait qu'au fond les responsabilités se diluent.
Le témoignage de Nicolas rejoint parfaitement les témoignages et les signalements que nous avons sur la plateforme J'alerte l'ARCEP. dont nous avons présenté ce matin les résultats de l'année 2021.
Oui.
Et on voit que le sujet de la qualité de l'exploitation des réseaux fibres et les qualités des raccordements est un des sujets où on a le plus de signalements. C'est pas des données qui sont très nouvelles, et l'ARCEP anime un groupe de travail avec l'ensemble des opérateurs tous les 6 semaines sur ce sujet-là. Et nous avons édité un plan d'action en novembre pour prendre en compte certains sujets, dont celui-là spécifiquement. Ouais. C'est-à-dire que nous avons demandé aux opérateurs, fin nos membres, de limiter à 2 le nombre de rangs de sous-traitance pour éviter la dilution des responsabilités. La deuxième chose aussi que nous avons demandé aux opérateurs, c'est qu'ils puissent mettre en place des formations certifiées pour les agents qui interviennent sur les réseaux. Et j'ai récemment écrit avec le secrétaire d'État au numérique, Cédrico, à la filière, donc notamment au président d'Infranum, donc la filière du numérique, et au comité stratégique de filière du numérique, pour leur demander de mettre en place ces formations et leur demander de mettre en place de ces labellisations. Parce que les réseaux de télécommunications, c'est un service essentiel pour les Français. Et donc, il faut s'assurer que les gens qui interviennent sur ces réseaux soient correctement formés et qu'ils fassent correctement leur boulot.
Et comment...
qu'ils respectent, en fait, les règles de l'art technique.
Et comment, en particulier, s'assurer que ce que nous disait Nicolas à l'instant, je suis technicien, je branche mon client, c'est l'essentiel, mais je débranche un autre parce qu'il n'y a pas assez de place dans l'armoire.
Nous avons aussi demandé aux opérateurs, pareil au mois de novembre, de développer une application qui s'appelle e-intervention, qui va permettre la notification en temps réel des interventions aux autres opérateurs et à l'opérateur du réseau. Donc l'opérateur commercial, votre opérateur,
oui,
celui auprès de qui vous souscrivez un abonnement.
On parle des Free, Bouygues, SFR et Orange,
exactement.
Voilà, pour dire les choses très clairement.
Fait intervenir un technicien pour assurer votre branchement.
Ouais.
Et lorsqu'il interviendra, et c'est souvent des sous-traitants qui interviennent, ce sous-traitant interviendra pour rassurer votre branchement, la notification de son intervention sera faite aux autres opérateurs commerciaux ainsi qu'à l'opérateur d'infrastructure. Donc il n'y aura plus de « je débranche sauvagement » de façon ni vue ni connue pour brancher par souci de simplicité.
Et quand vous parlez de notification, est-ce qu'on peut, par exemple, imposer une photo, prendre une photo avant et après l'intervention ?
Alors ça a déjà été demandé dans le plan d'action précédent que nous avions mis en place. C'est mis en place par les opérateurs. Ce que nous avons demandé en plus en novembre, c'est de mettre en place des outils d'analyse automatique de ces photos. Parce qu'aujourd'hui, ils avaient tellement de photos, finalement, qu'ils ne les exploitaient pas. Donc, naturellement, cela prend un certain temps pour être mis en place dans les systèmes d'information des opérateurs. Donc l'effet n'est pas immédiat pour les consommateurs, et je ne veux pas leur mentir aujourd'hui. La situation va pas s'améliorer du jour au lendemain. Mais ce que je veux vraiment dire, c'est qu'il y a une mobilisation des agents de l'ARCEP sur ce sujet pour que les opérateurs mettent en place des bonnes pratiques et que on arrive enfin à avoir des réseaux FTTH qui fonctionnent normalement. Mais je voudrais dire quand même que ça concerne uniquement certains réseaux FTTH. Il y a des réseaux FTTH. Des réseaux fibres, excusez-moi, des réseaux fibres où la situation se passe bien,
oui,
où il n'y a pas un niveau d'accidentologie énorme, alors que d'autres sont plus spécifiquement concernés par ces problèmes. Et on est en train d'enquêter administrativement sur certains des réseaux.
Sur un sous-traitant
d'SFR. Notamment sur une filiale d'Altice qui s'appelle XP Fibre, et sur SFR, sur certains réseaux d'XP Fibre et SFR, parce qu'on a noté des niveaux d'accidentologie particulièrement élevés.
Dominique au standard. Bonjour Dominique.
Bonjour.
Vous êtes maire d'une petite commune du sud de la Charente.
Exactement. Et mais pour rebondir sur ce que vient de dire votre intervenante,
oui,
je voudrais simplement déjà dire une chose, c'est que il faut se rappeler que jusqu'à aujourd'hui et encore, le téléphone qui est branché via la box passe par le réseau Orange, l'opérateur historique. Et comme a dit la personne qui était intervenue tout à l'heure, le technicien, c'est vrai que la sous-traitance, alors là n'en parlons pas, c'est une vraie gabegie. Ce qui fait que j'ai des personnes dans mon territoire qui ont 80, 90 ans et qui ont des coupures de téléphone depuis 4, 5, 6 semaines. Et c'est récurrent dans beaucoup de villages du territoire et de ma communauté de communes.
Est-ce que vous nous dites, c'est qu'au fond, le réseau cuivre n'est plus entretenu ?
Ah, exactement, il est plus entretenu, d'autant plus que la fibre est en déploiement. Donc Orange se lave un petit peu les mains de tous les petits problèmes en balançant ça entre les divers opérateurs et n'assure plus le service sur quelque chose qui pour l'instant n'est pas encore remplacé. Donc ça c'est un premier état de choses. La deuxième chose, alors là c'est quelque chose qui est absolument comique, le déploiement de la fibre. Je suis arrivé en Charente en 2018, le maire, mon voisin, se targuait fort de me dire, bah écoute, en 2020 t'auras la fibre, nous sommes en 2022 et la fibre ne sera déployée que dans le premier semestre 2023. On pourrait dire chouette, sauf que le consortium qui développe la fibre sur le territoire développe la fibre au-delà de 5 personnes qui peuvent être connectées. Et sur ma commune, par exemple, il y a 19 km², il y a 35 villages, et dans 35 villages ou hameaux, peu importe, il y a des fois que 2 ou 3 personnes. Ce qui fait que ces personnes-là, dont je suis, ne verront la fibre connectée que 12 à 18 mois plus tard. Donc là, je dis que là, il y a un gros, gros problème.
Merci Dominique. Laure de la Rodière, que pouvez-vous répondre à ce maire de Charente ?
Alors, c'est vrai ce que dit Dominique, ce maire de Charente concernant le cuivre. C'est important aussi qu'il y ait une maintenance de la qualité de service sur le réseau cuivre, parce que de nombreuses personnes resteront encore longtemps rattachées au téléphone ou à l'accès à Internet sur le cuivre.
Longtemps, c'est-à-dire ?
Longtemps, la phase de généralisation à 100% du très haut débit est annoncée de la fibre est annoncée pour 2025-2026. Et donc, c'est au moins jusqu'à ces dates-là, en fait, que le cuivre restera, pour certaines personnes, aussi essentiel, je dirais, que l'est la fibre pour d'autres. Et d'ailleurs, mon premier déplacement, ça a été sur la qualité de service de l'exploitation, quand j'ai été nommée présidente de l'ARCEP l'année dernière. Mon deuxième déplacement, ça a été sur la qualité de service du réseau cuivre, donc en mars 2021.
Et il y a des moyens de contraindre Orange à entretenir le cuivre, parce que j'imagine que les investissements pour la fibre sont importants et que donc on a tendance à oublier un peu le cuivre.
Orange a des obligations de qualité de service sur le réseau cuivre, sur la partie qu'on régule, c'est-à-dire sur le marché de gros, mais ça joue aussi directement pour les consommateurs que nous suivons attentivement trimestre après trimestre pour vérifier qu'ils respectent leurs obligations. Mais naturellement, c'est une vision nationale. Et donc, ce qui a été mis en place l'année dernière par Orange, en concertation avec l'État, c'est la mise en place au sein des préfectures d'un comité de concertation sur la qualité du réseau cuivre. Et moi, j'invite surtout les élus à demander au préfet la réunion de ces comités de concertation cuivre, qui réunit en fait les élus, le préfet et Orange, pour prioriser les actions de maintenance sur le réseau cuivre. C'est important que cette concertation au niveau local, au niveau de chacun des départements, ait lieu.
Sensibiliser la préfecture. Il nous disait une deuxième chose, en dessous d'une certaine densité de population, la fibre, c'est compliqué, l'installation est plus tardive que pour d'autres. Que dites-vous ? C'est comme ça et après tout, c'est normal ou pas ?
Alors, selon les zones, la capacité qu'a l'ARCEP de suivre les obligations est différente. Si on est en zone d'initiative publique, les obligations sont fixées dans le contrat qu'a l'opérateur avec la collectivité. Et donc, c'est à la collectivité localement de faire respecter ces obligations. Mais quelle que soit la zone, finalement, il y a un cadre de complétude des réseaux fibres qui est fixé par l'ARCEP, qui dit que lorsqu'une armoire de rue, un point de mutualisation a été installé sur une commune, alors dans les 5 ans, le réseau doit être complètement déployé. Donc nous avons un moyen finalement de rattraper les zones qui n'auraient pas été complétées dans un premier temps, mais avec un petit délai.
5 ans, ce qui fait un délai, oui, voilà. Tout de même. On arrive déjà quasiment au terme de cet entretien. Je voulais qu'on parle des réseaux 4G aussi, réseau mobile. Je sais que vous êtes très sensible aux différences villes-campagnes. L'UFC Que Choisir disait au début de l'année, il y a encore de très très grosses inégalités sur la qualité du débit 4G pour les campagnes. Comment améliorer cela ?
Alors, il y a encore des différences, c'est vrai, de débit
32%
entre...
des consommateurs en zone rurale privés de bon haut débit, nous disait l'UFC en janvier.
Il y a encore des différences entre la ville et la campagne, mais ce que dit peut-être pas UFC Choisir quand même, c'est que ça a fortement progressé, aussi en milieu rural. Il y a deux choses qui ont fortement progressé, c'est le débit disponible, et la deuxième chose, c'est finalement la généralisation de la 4G sur la quasi-totalité des sites, et ça sera la totalité d'ici fin 2022, des antennes déployées partout en France. Merci au programme New Deal qui a été lancé en 2018. Donc il y a une vraie amélioration de la qualité des réseaux mobiles 4G, notamment en ruralité. Et deuxièmement, il y a aussi une amélioration de la couverture avec les antennes du programme qui s'appelle dispositif de couverture ciblée, qui est dans le cadre de ce New Deal, avec déjà plus de 1200 nouvelles antennes qui ont été déployées et 3200 qui ont été recensées pour justement combler les déficits de couverture. Donc ça progresse.
Merci Laure de la Rodière d'être venue dans les studios de France Inter.
Merci de votre invitation.
De l'ARCEP, Autorité de Régulation des Communications Électroniques. Il est 13h45.
France Inter. Le 13-14.
À suivre dans le 13-14, dans 10 minutes, le vif de l'histoire. Bonjour Jean Lebrun.
Bonjour Bruno Duvic.
Quel est le programme aujourd'hui? Une femme Premier ministre?
Oui, elle est partie avec moins d'égards il y a 30 ans que Jean Castex aujourd'hui.
Edith Cresson, vous nous en parlez dans 10 minutes. Avant cela, le feuilleton avec Valentine Fortin, première année comme cycliste professionnelle. Et tout de suite, c'est une chanson. Bonjour Alina Fanoukoé.
Bonjour Bruno.
Le pianiste virtuose japonais Koki Nakano est à votre micro aujourd'hui pour évoquer une chanson d'opéra qui l'a marquée dès l'enfance, interprétée par le grand baryton Dietrich Fischer-Dieskau dans Les Amours du poète de Robert Schumann.
Cette chanson s'intitule Im wunderschönen Monat Mai. Koki Nakano, qui a commencé la pratique du piano à l'âge de 3 ans, se souvient avec émoi et précision du moment où son professeur de musique lui a fait découvrir cette chanson. Il vit aujourd'hui entre Paris et Rouen et il a tenu à nous dire quelques mots en français.
C'était 15 ans quand j'ai écouté cette pièce pour la première fois à la classe de solfège au conservatoire à Tokyo. C'était mon professeur nous a joué par le piano, sans le bois, pour analyser ses harmonies. Déjà, j'étais totalement fasciné par ce mélodie et ce fluidité.
Et qu'est-ce qu'elle vous rappelle, cette chanson?
Cette chanson bien m'exprime la fragilité de ton. Ça m'évoque l'inquiétude dans le moment très beau. C'est ce que le printemps m'amène en même temps avec sa beauté éphémère.
Fischer-Dieskau avec Im wunderschönen Monat Mai, extrait de l'album Les Amours du poète, lead de Robert Schumann, chanson racontée par le pianiste Koki Nakano.
Koki Nakano donne aujourd'hui des récitals dans le monde entier, inspiré tout autant par cette musique classique que par le jazz, le rock ou l'électro, un large spectre qui lui vaut d'avoir composé 3 albums et de collaborer avec les grands noms de la danse contemporaine, comme tout récemment pour son titre Mu, extrait de son nouvel album où il a invité le danseur Nicolas Huchard, qui a partagé la scène avec Madonna et Angèle, entre autres, pour une performance de haut vol filmée à l'hôtel de ville de Paris.
Et Koki Nakano vous a révélé sa relation particulière avec cette chanson, qui est sa préférée, « Im wunderschönen Monat Mai ».
Vous arrive-t-il de chanter cette chanson?
Non.
Jamais?
Mais non, jamais. Mais je joue de temps en temps au piano, seulement pour moi.
Seulement pour vous?
Oui, c'est très intimiste.
Pourquoi?
Parce que je suis trop timide de jouer de musique classique pour le public maintenant. Donc c'est vraiment pour le joie, pour juste seulement pour moi.
Et Koki, vous parlez allemand?
Non.
Pour vous, elle dit quoi cette chanson, juste pour finir?
Encore, c'est vraiment le mesure de la beauté. Ouais. Toujours, oui, c'est...
Infini.
Qu'est-ce que c'est la beauté pour moi? Qu'est-ce que la beauté pour moi, c'est... C'est ce morceau.
Une wunderschöne Monat war, als alle Knospen sprangen, da ist in meinem Herzen die Liebe aufgegangen.
Dietrich Fischer-Dieskau dans Les Amours du poète de Schumann avec Im Wunderschönen Monat Mai, chanson choisie par le pianiste Koki Nakano, dont le nouvel album Oceanic Feeling, autre ambiance, sort ce vendredi.
Koki Nakano sera également en concert à la Philharmonie de Paris les 6 et 7 juillet avec cette fois Marion Motin, la danseuse chorégraphe qu'on a vue aux côtés de Stromae, Christine Dua Lipa ou encore Juliette Binoche.
Merci Aline Afanou-Kohé, c'est une chanson, bah, prochain épisode demain. Et les épisodes, c'est aussi le principe de notre feuilleton. Avec Valentine Fortin cette semaine, cycliste professionnelle, équipe Cofidis. Elle prépare le Tour de France féminin qui verra le jour à nouveau cet été. Question de Fanny Lechevestrier pour ce troisième épisode. Comment est-elle devenue pro?
Ça m'a tombé un peu comme ça dessus. D'être au Pôle France à 15 ans, ça m'a permis d'évoluer, d'avoir une approche un peu plus professionnelle sur le vélo. Après, à 15 ans, on est encore jeune, hein, donc voilà, on a le temps devant nous. Mais il y a deux ans, 2020, après le Covid, j'ai gagné une première Coupe de France. Et puis là, on se dit, ah, c'est pas si mal. Le week-end d'après, alors que j'avais jamais gagné, le week-end d'après, je regagne encore sur une nationale. On se dit, bah, qu'est-ce qui se passe? Je suis rentrée à Aubert 93. À Saint-Michel-Aubert. Et puis après, j'ai regagné des courses. J'étais super bien entourée là-bas. Et puis voilà, après, Cofidis m'a contactée. Et puis ça a été une super opportunité, un super projet. Et voilà, après, je me suis jamais dit, je vais en faire mon métier. Mais j'ai jamais pu refuser l'offre que Cofidis m'a faite.
Avec deux modèles ou pas?
Ben oui, évidemment. Pauline Ferrand-Prévot qui a très bien marché sur la route. Triplement championne du monde dans trois disciplines des vents. Donc c'est un vrai exemple. À Ganvelgem, je courais à côté de Marianne Vos. C'était fou, quoi, de courir à côté de Marianne Vos, parce que c'est une grande championne. C'est chouette.
Et aujourd'hui, de pouvoir vivre de sa passion, c'est indiscret de vous demander combien vous gagnez?
Non, c'est pas indiscret. Cofidis, je pense que c'est l'une des équipes qui, aujourd'hui en continental, paye le mieux ses filles. Ça reste très raisonnable aussi. C'est pas des millions d'euros, hein, mais pour une fille qui a 22 ans et qui est étudiante, oui, ça me permet de vivre correctement et c'est très bien, oui.
Vous comprenez qu'il y ait des différences de salaire et de primes, on en parle beaucoup avec les hommes. Est-ce que c'est quelque chose qui vous émeut?
Oui et non. Après, le cyclisme féminin évolue. Avant, c'était peut-être un peu moins passionnant que le masculin, mais je pense que comme les courses évoluent, les salaires vont évoluer. Et puis voilà, on voit que sur l'Estrade Bianche, au final, c'est la course féminine la plus passionnante, hein, avec une arrivée pleine de suspense. Et au final, chez les hommes, bah, Tadej Pogacar, il a tout plié à 50 km de l'arrivée. Donc on s'est un peu ennuyé. Je comprends en fait pourquoi il y a une différence de salaire, entre guillemets, parce que le cyclisme masculin est beaucoup plus médiatisé que le cyclisme féminin. Mais au jour d'aujourd'hui, ça commence à être égalitaire et les salaires vont l'être aussi, parce qu'il n'y a pas de raison que... Les sacrifices sont les mêmes, donc... J'ai fait beaucoup d'interviews ces derniers temps et c'est vrai qu'on me pose toujours ces questions. Oh, le cyclisme féminin. Mais en fait, il n'y a pas de cyclisme féminin, il n'y a pas de cyclisme masculin. C'est la même chose. C'est le cyclisme, en fait. Moi, c'est peut-être ça que j'aimerais, qu'on arrête de parler de cyclisme féminin, qu'on parle juste de cyclisme. Et puis qu'on parle des hommes et des femmes à la même valeur, en fait. Il n'y a pas de différence.
Le feuilleton, reportage Fanny Lechevestrier, réalisation Lucie Lemarchand cette semaine. Et cette semaine, à la technique du 13-14, il y a Arnaud Caillé.
et Ludovic Asselot.
France Inter. Le 13-14.
Le vif de l'histoire. Conseil des ministres, on ose à peine dire le dernier de l'ère Castex ce matin à l'Élysée. Demain, le Premier ministre réunit son équipe pour un dîner d'adieu à Matignon. Jean Lebrun, on ne sait toujours pas qui lui succédera. Est-ce que ce sera une femme, la seule à avoir occupé ce poste jusque-là? C'était Edith Cresson, il y a un peu plus de 30 ans. Elle était restée moins d'un an en poste.
Oui. À son départ, on la surnommait, cette première femme Premier ministre, Calamité Jeanne Cresson. Alors, faut se souvenir, 91, François Mitterrand supporte de plus en plus mal, à Matignon, Michel Rocard, avec qui il a l'impression de vivre une cohabitation. Il le fait déguerpir en 24 heures. Avec Cresson, par ailleurs son obligé, il croit pouvoir provoquer un changement de style. Il aime chez elle, un peu comme chez Bernard Tapie, vous voyez, le parler cash. Le naturel, la gouaille.
Oui, mais instantanément, eh ben ça tourne mal.
Bah oui, parce que le discours de politique générale d'Edith Cresson à l'Assemblée nationale commet le prodige d'être à la fois plat et creux. Les rocardiens observent qu'elle n'a pas cité une seule fois son prédécesseur. Les clients des différents barons du Parti Socialiste lui reprochent d'avoir pris la place de leurs champions respectifs. Le plus mécontent, c'est Pierre Bérégovoy, qui s'estimait beaucoup plus légitime pour le poste. Il garde pourtant Bercy et ses dépendances, d'où il assène que, dans une conjoncture difficile, il ne faut rien faire qui mécontente les investisseurs, air connu. J'en ai rien à cirer de la bourse, répond Edith Cresson. Mais Charras fait la paire avec Bérégovoy et explique que la réduction des inégalités, ça n'entraînerait pas de vote supplémentaire de l'électorat socialiste, au vu que les RMistes ne sont pas très reconnaissants. Donc, vogue la galère de l'austérité.
Et le pilotage de la galère par Edith Cresson n'apparaît pas très clair et net.
Non, parce que d'un côté, elle dit regretter les hautes années de l'union de la gauche, quand les communistes participaient au gouvernement, et de l'autre, elle en appelle à la limitation des salaires pour développer la compétitivité et à l'augmentation des taxes et des cotisations pour réduire les dépenses publiques. À Bercy, Bérégovoy la surveille, tel un vice-premier ministre, tandis qu'à Matignon, elle a installé un conseiller spécial tout-puissant, homme d'affaires et gaulliste, Abel Farnou, auquel elle passe tout et qui fait office, lui, de premier ministre bis.
Et faute de ligne claire, il lui faudrait une politique d'image efficace?
Oui, parce qu'elle n'était pas très connue à l'arrivée, au départ, et Edith Cresson n'avait occupé que des ministères techniques. Jamais une grande émission de télévision ne l'avait invitée avant son entrée à Matignon. Et dès qu'elle y arrive, le bébête chaud, Stéphane Collaro, souvenez-vous, on va dire le bébête macho, la pilonne systématiquement. Elle est représentée par une marionnette de panthère pulpeuse nommée Amabotte, et on la voit se rouler au pied de Mitterrand Kermit. « Oh, mon roudoudou d'amour, mon bichon de solutré !» Alors, c'est pas d'aujourd'hui que les humoristes prennent la place des éditorialistes, qui, de toute façon, à l'époque, sont pareillement négatifs pour elle. Et la panthère les considère comme des chiens. Pire, des hyènes. En regard, elle se dote d'une cellule de communication pléthorique qui va l'attirer à U et à Dia. Alors elle multiplie les maladresses. D'elle, on ne se souvient aujourd'hui que de ses saillies. Les Japonais seraient des fourmis, les Britanniques des homos refoulés. Elle se défend en disant que ses sorties privées n'étaient pas destinées à la publication, mais en revanche, c'est en parfaite connaissance de cause qu'en jogging, dans sa maison de campagne, elle déclare à propos des étrangers en situation irrégulière qu'il faudrait les raccompagner manu militari. Alors on lui demande en charter, ah non, ce ne serait pas des charters, les charters c'est des gens qui partent en vacances avec des prix inférieurs. Là, ce sera pas pour des vacances et ce sera totalement gratuit. La gauche s'émeut, Denise Cacheux, députée socialiste du Nord, déclare, on ne peut pas dire ça tout haut sans le penser un peu tout bas. Pourtant, Denise Cacheux, qui était la plus savoureuse des parlementaires, je la salue, avait soutenu Cresson, avec elle les mecs vont en chier, avait-elle commencé par dire d'un air gourmand.
Et d'ailleurs, ce fut la dernière ligne de défense d'Edith Cresson. Elle se présente depuis sa chute comme la victime du sexisme.
Oui, mais quand elle était à Matignon, elle n'avait pas beaucoup joué de cette corde. Tenant par exemple à distance Françoise Gaspard, l'ancienne maire de Dreux, qui voulait s'installer à ses côtés pour défendre son mandat sous cet angle-là. Mitterrand, qui devra lui signifier son congé au bout de 10 mois seulement, tentera lui aussi de dissimuler son erreur de l'avoir nommée en disant qu'il avait sous-estimé les forces obscures, en tant les viriles, qui se sont dressées contre elle. Alors on peut en discuter à l'infini. Ce qui est sûr, Bruno, c'est que l'expérience malheureuse de Cresson à Matignon n'a pas accéléré la féminisation de la vie politique.
Jean Lebrun, le vif de l'histoire, juste avant 14h tous les jours et juste après 14h, c'est la Terre au carré. Bonjour Mathieu Vidard.
Bonjour Bruno.
Au programme aujourd'hui.
Eh bien, on va parler des origines de la vie sur Terre.
À tout de suite.